Very good. I think he brings a lot.
Marceau le midi.
13h10, juste avant de passer à Jérôme Blanchet-Gravel, il y a une nouvelle qui vient d'apparaître sur le site du Journal de Québec. Nouvelle que j'ai discutée avec Maître Marc Bellemare hier concernant Mohamed Al-Balouz. Est-ce que ça te dit quelque chose?
Oui, il était déjà dans l'actualité ce matin. Là.
Ce tueur de femmes et d'enfants qui se disait être dans un processus là, depuis qu'il était en prison pour devenir une femme. Il avait même changé son nom comme étant maintenant Levana Balouz.
Et il était détenu dans une prison pour hommes.
Oui, il avait demandé à être détenu dans un pénitencier pour femmes et tout le monde pensait que ça allait être respecté. Bien, j'ai une bonne nouvelle pour la population en général. Le père, coupable d'avoir décimé sa famille dans un pénitencier pour hommes, même si elle considère comme une femme, il va être dans un pénitencier pour hommes.
Ça reste comme ça.
Il ne restera plus, au pénitencier pour femmes. Fait que c'est prison à vie pour avoir tué ses deux enfants et sa conjointe. Même s'il s'identifie comme une femme présentement, j'imagine que ça va être au grand plaisir des prisonniers qui vont l'accueillir, il ne pourra plus aller là.
Et en plus que la tension, puis l'agressivité puis la violence dans les prisons a monté.
C'est fini, le wokisme. Jérôme Blanchet-Gravel de Libre Média, salut!
Oui, bonjour.
C'est une bonne nouvelle, ça. Un tueur qui prétendait être devenu une femme depuis ses crimes, puis il voulait faire sa sentence dans une prison pour femmes. Bien, qu'on le mette dans une prison pour hommes, c'est une bonne affaire.
Oui, bien écoute, il y a quand même une dizaine d'individus, hein, par exemple, qui, dans les prisons au Canada, sont des ex-hommes. mais pas encore des ex-détenus. Donc, à Libre-Média, on avait fait une petite recherche sur ça. Donc, ça reste préoccupant. Il reste quand même une dizaine au minimum d'hommes dans des prisons pour femmes au Canada, dans l'ensemble de la fédération. Donc, évidemment, toute la question trans qui, encore une fois, menace la sécurité des femmes. Hein. Donc, c'est bien beau dire qu'on permet aux gens d'exprimer leur identité sexuelle profonde, mais ça ne doit pas être fait au détriment de la sécurité des vraies femmes, entre guillemets. Là, je sais que ça peut choquer qu'on parle de femmes biologiques aujourd'hui, mais on le voit aussi, la question s'est posée dans des vestiaires, est-ce qu'on peut, permettre à des hommes majeurs de côtoyer des jeunes filles dans des vestiaires autrefois consacrés aux femmes? Qu'est-ce qu'on fait de ces situations-là? Moi, personnellement, je pense que c'est inadmissible. Je pense qu'on permet à des prédateurs sexuels de s'infiltrer là où ils ne devraient pas être. Mais encore un gros bon sens, écoute, puis évidemment, la démission de Trudeau aussi va peut-être permettre de retrouver au Canada un certain sens commun. Hein? De modérer un peu l'idéologie woke qui sacralise toutes les formes de diversité, que ce soit culturelle, sexuelle, etc. On va vers un très, très gros retour du balancier.
Mais est-ce que c'est la fin du wokisme? Je sais que les gens sont un peu tannés d'entendre parler du wokisme. Ils en ont même parlé au Bye Bye et tout ça. Puis je ne me trompe pas, dans Infoman aussi, ils en ont parlé un petit peu. C'est-tu la fin avec l'arrivée de Pierre Poilievre?
C'est pas la fin. Écoute, ça va être graduel. Mais on va vers une accalmie, si je peux dire. C'est clair que l'arrivée d'un gouvernement conservateur va très clairement mettre la hache dans tout un ensemble de programmes qui font la promotion de cette idéologie-là. On ne pourra pas non plus être épargné au Canada de la vague Trump, là, c'est-à-dire que quand même, tout le voisin de 330 millions va, lui, disons, faire un virage anti-woke d'une certaine façon. Puis je sais que quand tu dis que les gens sont tannés d'entendre parler, c'est que le wokisme, c'est toujours resté une notion qui est assez vague. Hein, ça inclut beaucoup de choses. Là, en gros, le wokisme, pour quand même le rappeler aux auditeurs, c'est la survalorisation de toutes les formes de diversité. Donc, c'est autant culturel que sexuel. Donc, c'est tout ce mélange un peu hétéroclite. Donc, c'est une notion qui est apparue encore quelques années seulement hein, et qui s'est imposée d'elle-même.
Ce qui est triste, que c'est devenu comme très important de faire une différence entre juste débattre de certains enjeux qui sont importants pour la liberté de certaines personnes, le bien-être de d'autres, l'acceptation en société, versus un extrême qui n'est même pas souhaité souvent par ces classes-là qui étaient à défendre. Là.
Oui, c'est ça. Ben, ça fait longtemps quand même qu'on parle en Occident de reconnaître évidemment les droits de telle minorité. Puis personne ne remet en question ces acquis-là. Évidemment, les gens qui ont une autre orientation sexuelle, pour moi, c'est non négociable, là, ces acquis-là. Mais c'est ça, c'est l'autre extrême. Et là, quand tu as un féminisme, entre guillemets, qui n'est plus du côté des femmes, mais plus du côté des hommes trans, au détriment même de la sécurité, encore une fois, des vraies femmes, mais là, c'est carrément un autre extrême. On n'est plus vraiment dans le féminisme, on est dans quelque
Ouais.
chose d'autre, là.
Parce que dans le cas d'Al-Balouz, tu sais, lui, bon, depuis son crime, il s'identifie comme femme, il s'appelle Levana Balouz. Ben, il était détenu à la prison provinciale Leclerc pour femme pendant son procès. Puis là, ben, les juges, il a dit, ben, c'est pas à moi de décider dans quelle prison tu vas aller, mais n'en demeure pas moins que là, les autorités carcérales l'ont mis dans une prison pour hommes. Fait qu'on va souhaiter qu'il y reste, il va avoir certainement certains recours là, pour demander à retourner dans une prison pour femmes, mais n'en demeure pas moins que c'est une bonne nouvelle qu'un homme qui a commis ces crimes-là, donc qui a tué ses deux enfants puis sa femme en tant qu'homme, aille dans une prison pour homme, même si après ça, il décide de changer d'idée. Puis, ah, finalement, je suis une femme. Non, non, tu as
Tu
commis
sais,
ton crime quand tu es un homme, ben, tu vas aller dans une prison pour homme.
on le sait, tu sais, le timing n'est pas bon non plus pour ce genre de revendication. On sait les prisons actuellement au Canada, au Québec, les conditions des prisonniers se sont grandement détériorées. Les gardiens de prison ont bien d'autres choses à gérer aussi, là, tu sais, la prison, ce n'est pas un endroit non plus faire la promotion de la diversité sexuelle et culturelle. En général, c'est un endroit où tu as un choc avec la réalité. Donc, je pense que si tu avais Marceau comme invité un gardien de prison, d'après moi, cette personne-là dirait que ce n'est pas leur priorité non plus absolue dans leur journée, dans leur corps de travail, que de se plier aux caprices personnels de ces gens-là, là. Tu sais,
Mais
je
moi, je
pense
pense que tu
que
as perdu ton privilège de jouer dans des facettes de ta vie. Si jamais tu es en prison et tu décides de faire justement ce changement de sexe-là, moi, je pense que Yannick a le doigt sur l'opinion que j'ai. C'est si tu as commis ton crime sous le sexe masculin, sous le sexe féminin ou autre, tu es jugé en conséquence. Ça veut dire que ton identité était déjà forgée à ce moment-là et non le switch que tu aimerais faire. Si même si c'est fondamental, au moment que tu es en prison, ben, tu n'as pas les mêmes droits que tout le monde parce que tu es criminel au sens de la loi.
non, je suis bien d'accord. C'est au même titre que quand tu es majeur, en général, tu n'es pas jugé comme mineur. Puis, donc, quelque chose quand même. Non, c'est quand même fou qu'on ait même ce débat-là. J'ose croire que pas trop quand même de Québec solidaire n'a quand même pas appuyé les revendications de ce.
Non, mais je pense que tout le monde doute, là. Je veux dire, de l'intention du gars.
Ben
Puis moi,
oui.
je suis la dernière d'habitude à douter. Je laisse le bénéfice du doute, là. Mais là, c'est
Mais
moi qui
c'est,
l'ai.
tu sais, hier, ce
Mais
qu'on
tu
disait.
as dit le mot privilège, hein, c'est parce que on a compris que certaines personnes utilisaient justement le wokisme de manière instrumentale. C'est-à-dire, justement, on utilise ces discours-là pour s'accorder de meilleures conditions. On l'a vu notamment, toute la question des faux autochtones en prison. Ça, c'est une grande question au Canada. Donc, plein de détenus qui, eux, ne se déclarent pas femmes, mais vont se déclarer autochtones alors qu'ils n'ont pas de sang autochtone, mais selon le principe de l'autodéclaration, c'est-à-dire selon le principe du ressenti. Au Canada, on permet à Jonathan Tremblay de se décrire comme autochtone et donc de bénéficier de meilleurs repas, de meilleures conditions, l'accès également à un centre spirituel dans des pénitenciers, imaginez-vous. Donc, on peut étendre la question. Donc, on a compris qu'il y a des gens qui, c'est ça, ils utilisent le wokisme
Oh, mais
pour simplement.
ils nuisent aux vraies causes aussi. J'ai l'impression
Exact.
qu'il y a une couple de
Aussi,
groupes
ben,
qui
tout à
vont
fait.
faire. Bon.
Ben, les vrais autochtones, pour ce que ça veut dire aussi, évidemment, s'opposaient à ces pratiques-là, c'est-à-dire tout le monde ne peut pas se déclarer autochtone. C'est non, parce que c'est juste faux. Mais ça aussi, c'est un gros dossier qui est intéressant et qui est un peu décourageant aussi.
On parle maintenant de l'héritage Trudeau. Il s'en va. Il l'a annoncé hier. Je pense qu'il y a juste Valérie Plante qui a pleuré son départ. Il y a Joe Biden aussi qui disait que Justin Trudeau était son ami. Mais est-ce que le Canada est affaibli maintenant dans le monde? Si on parle de l'héritage Trudeau, est-ce qu'on peut dire que le Canada est très faible?
Oui, ben le déclin du Canada se manifeste de toutes sortes de façons, mais sur la scène internationale, disons que c'est encore plus net. Depuis Trudeau, le Canada a perdu pratiquement toute son influence sur dans les relations internationales. On a des mauvaises relations avec plusieurs géants. L'Inde, notamment, on peut rappeler bon, toute la question de l'ingérence indienne, mais le parti pris du gouvernement libéral pour les Sikhs, évidemment, nous a aliénés complètement à New Delhi. La Chine, ça n'a pas été terrible non plus. La Russie, bon, vaut mieux pas en parler. Les États-Unis, bon, avec Trump, remarque qu'avec Trump, même un gouvernement conservateur ne pourra pas non plus faire des miracles. Là. Ça reste quelqu'un de, disons, de très déterminé. Et donc, en tout cas, il y a plusieurs, on peut prendre la question sous plusieurs angles, mais le legs de Trudeau est catastrophique. Pour moi, c'est un bilan qui est désastreux. Pierre Poilievre a une tâche colossale devant lui. Ça va lui prendre des années avant de redresser la situation. Sur le plan culturel, économique, ben écoutez, on est plus pauvre que jamais au Canada. Le dollar canadien aussi se porte pas très bien. Donc, écoute, Poilievre va vraiment devoir se retrousser les manches parce qu'il va avoir besoin de plus qu'un mandat, en fait, pour faire le ménage.
Mais en prorogeant le gouvernement comme ça, là on est jamais jusqu'au 24 mars prochain. Il a pensé à lui puis il a pensé à son parti, là.
Ouais.
Parce qu'il aurait pu facilement être resté en place, attendre qu'il y ait du chichi hein, avec le NPD puis le Bloc ainsi que les conservateurs, puis se faire sortir de là dans les prochaines semaines, ce qui ferait en sorte qu'on s'en irait en élection. Là, en prorogeant, on est encore 3 mois dans le néant, là.
Oui, on peut se questionner quand même sur le caractère démocratique ou non de cette manœuvre-là. Je pense qu'il y a un très, très gros appétit dans la population actuellement pour des élections. Donc, c'est une manière, effectivement, de favoriser, ben, c'est ça, le PLC. Il y a quelque chose de très partisan dans cette manœuvre-là. Mais non, je pense qu'il fallait déclencher les élections immédiatement. Et parce que, dans le fond, ça appartient au PLC, ça, qui n'est pas de chef. Ça appartient pas aux Canadiens. Les Canadiens, eux, souhaitent des élections
Exact.
et ne voulaient pas attendre finalement l'élection du prochain chef du Parti libéral. Donc, encore une fois, on voit qu'il y a un establishment qui se fout un peu quand même finalement de la volonté populaire. Parce que c'est très clair, les sondages le montrent, là. Le gouvernement Trudeau n'avait plus aucune forme de légitimité. Et on s'accroche encore un petit peu. Donc, ça a été compliqué d'expliquer ça dans les médias internationaux. Par exemple, hier, j'ai passé une bonne partie de ma journée à répondre, commenter l'affaire dans les médias français. Il fallait que j'explique, évidemment, que Trudeau n'avait pas démissionné de son poste de premier ministre, mais de son poste de chef du PLC. Donc là, on ne comprenait pas pourquoi il fait ça. Il s'accroche au pouvoir, c'est pas très clair. Bon, évidemment, c'est les particularités du système britannique qui est le nôtre. Mais quand même, les Français comprenaient que c'était un peu comme Macron, une manière de encore se donner quelques mois. Toujours un petit peu plus, un petit peu plus, un petit peu plus. Bon, il a démissionné, mais quand même, hein, on rallonge toujours un peu l'attente. Puis la population, ça creuse le cynisme, ça augmente la crise de la représentation. Je pense qu'il y a des gens qui vraiment sont découragés des politiciens. Et je pense que s'il y avait déclenché les élections, ça leur aurait peut-être contribué à augmenter un peu moins le cynisme ambiant à l'égard des politiciens.
Qui vivra verra, mon ami. Est-ce que vous jasez du 10e anniversaire de l'attentat de Charlie Hebdo? On se souvient de cette atrocité qui s'est passée au Charlie Hebdo où des individus sont entrés et ont littéralement tenté de tuer tout le monde. Est-ce que vous parlez de ça dans Libre Média?
Oui, on a d'abord une caricature de Flegg. Flegg qui est notre caricaturiste et qui, d'ailleurs, a une caricature dans l'édition spéciale de Charlie
Oui,
Hebdo
j'ai vu ça passer, oui.
Donc, on est très fiers de Flegg. Félicitations, Christian, pour
Réalisation,
ce succès, ouais, cette
c'est
réalisation. Ouais. Donc, on souligne ça parce que, bon, ça reste aussi des confrères. Puis, on a tous été marqués. Moi, je me rappelle très bien, là, de cette journée-là.
ils ont
Et
assassiné 12 personnes, dont 8 membres qui faisaient directement partie de la rédaction.
exact. Donc, c'est une journée sombre. Puis, écoute, puis ce qu'il faut comprendre, c'est que, bon, 10 ans après, l'islamisme, malheureusement, reste une menace en France, reste une menace en Occident. On l'a vu encore récemment, deux attentats à la voiture Bélier durant le temps des fêtes, hein, notamment d'abord au marché de Noël de Magdebourg en Allemagne et ensuite à la Nouvelle-Orléans. Bon, les médias sont traditionnels restent dans le déni, hein, évidemment. À chaque fois que ce genre d'attentat-là, on hésite à nommer les choses, à dire que bon, ça, c'est des gens qui se revendiquent de l'islamisme, etc. Donc, on reste toujours dans un climat très politiquement correct où on n'admet pas encore totalement que cette menace-là persiste. C'est dramatique et il n'y a pas d'amélioration. Hein. C'est ça un peu le drame. 10 ans plus tard, les services de renseignements français, je pense, sont plus efficaces. Les autorités françaises arrivent à prévenir un plus grand nombre d'attentats. Donc, les attentats de l'ampleur de Charlie Hebdo, de l'ampleur du Bataclan, sont de plus en plus rares, mais il reste toujours des islamistes, ce qu'on appelle les loups solitaires, qui quand même font appartiennent à une meute, malgré tout, et qui, hop, vont bon, poignarder quelqu'un, faire un attentat à la voiture Bélier. Donc, malheureusement, l'islamisme continue d'être gangréné une partie de nos institutions. Puis on l'a vu aussi au Canada depuis le 7 octobre, toutes les manifestations à caractère antisémite qui ont eu lieu à Montréal, notamment encore récemment des provocations là, devant une église importante de Montréal. Donc les provocations continuent et on ne peut pas se voiler la faire jouer à l'autruche. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'on reconnaisse que la menace est encore là et que malheureusement, le temps ne fait pas effet. C'est-à-dire, le temps, on pourrait penser que les années vont passer, que ce courant-là va finir par s'atténuer, etc. Mais non, le temps n'a pas d'effet sur l'islamisme. La menace reste telle quelle et il faut la regarder en face.
Ben, c'est des radicaux, ça. Eux, ils seront constamment en guerre. Ce que je me demande, c'est comment on va faire pour les empêcher de faire leur truc, tu sais. Bon, les autorités américaines travaillent extrêmement fort, les autorités canadiennes aussi, par l'entremise du CRS, par l'entremise de la GRC, mais n'en demeure pas moins que ça arrive une fois de temps en temps. Si tu te cesses de tolérer l'intolérable, tu sais, toutes les manifestations qu'on voit où il y a de la haine envers les Juifs à Montréal, ben, à partir du moment où on voit qu'il y a de la haine, y a-tu des arrestations possibles? Y a-tu des peines minimale qui pourrait être donnée à ces gens-là, qui serait, je ne sais pas moi, de quelques mois, peut-être même un an. À partir du moment où tu appelles au meurtre des Juifs, ben c'est un an automatiquement en prison. Oui, mais on peut-tu en faire moins? Non, il n'y a pas de négociation. C'est un an minimum. Puis à la deuxième fois, ben, tu retournes d'où tu viens, tout simplement.
Il y a des choses qu'on devrait un petit peu moins tolérer en termes de liberté d'expression. Aussitôt que c'est atteinte à la personne, que c'est une menace, ou c'est déjà dans le code criminel. Là.
Adil Sharkawi, on s'explique encore très mal pourquoi il n'y a pas eu d'accusation.
Oui, ben lui, vraiment, on ne sait pas. C'est une question qui concerne le renseignement. On sait qu'il n'a pas été inculpé à l'époque parce que les services de renseignement ne voulaient pas dévoiler leur méthode en cours. Hein. C'est ça qui s'est passé. Donc, si c'est quelqu'un qui ne devrait pas être en liberté, c'est un choix que.
Ça alimente
je
les complots. Je suis vraiment désolé, mais ça alimente
non,
les
mais
complots.
C'est ça.
Les complotistes. Ouais. Ils disent que c'est probablement un agent source qui donne des renseignements aux services de renseignement
canadiens.
C'est
parce qu'à un moment donné, on se demande pourquoi il n'est pas.
Mais quand même, dans un livre de Fabrice de Pierrebourg, je pense.
Ouais, excellent journaliste international.
C'est ça. Donc, dans un livre qui s'appelle, je pense, djihad.ca de mémoire, Monsieur de Pierrebourg dévoilait ça. C'est pas moi qui a fait cette enquête-là. C'est lui. Et il disait que selon ses informations, si Sharkawy est encore en liberté, c'est seulement parce que le SCRS n'avait pas voulu divulguer en cours ses méthodes. Après, est-ce que Sharkawy est devenu un agent d'infiltration lui-même qui finalement agit comme un aimant et qui attire autour de lui les radicaux. Je ne sais pas. Écoute, je ne
ben,
suis pas dans.
C'est une hypothèse plausible.
Ben, ça existe quand même ce genre de scénario-là. Là. Ça, les ben, services de renseignement fonctionnent comme ça.
C'est souvent des gens qui sont très, très près de ceux que tu veux justement soutirer de l'information. Là. Puis oui, le livre, c'est Djihad de Fabrice de Pierrebourg. Il parlait des loups solitaires, des cellules dormantes, des combattants aussi. Excellent livre si c'est quelque chose qui vous intéresse.
Oui, c'est un livre qui a quelques années, mais qui est encore d'actualité. Puis c'est ça, puis l'islamisme se manifeste aussi. Bon, le vous au Royaume-Uni, vous avez vu toute la nouvelle polémique là, qui oppose Elon Musk au premier ministre anglais Keir Starmer, le travailliste. Donc, M. Musk a décidé de remettre à l'avant-plan cette fameuse histoire là, des gangs pakistanais qui avaient réduit en esclavage sexuel quand même plus de 1 000 jeunes filles anglaises. Donc là, actuellement, sur les réseaux sociaux, on parle beaucoup de ça. Donc, on a un article aussi à Libre-Média là-dessus. Allez lire ça pour comprendre toute l'affaire. C'est un compte rendu. On ne prend pas parti. Est-ce que Elon Musk En beurre épais, comme on dit en québécois, c'est possible. Elon Musk est quand même en train, disons, de s'ingérer, quand même, il faut le dire, d'une certaine façon, dans les affaires de plusieurs pays. J'ai fait un article aussi, un éditorial là-dessus hier à Libre Média. Bon, ça reste qu'il faut se poser la question, là, où, jusqu'où les milliardaires peuvent-ils aller dans leur liberté d'expression face à, quand même à la souveraineté des États. C'est-à-dire, les États sont souverains, il ne faut pas non plus débarquer dans n'importe quel pays et dire, vous, moi, je n'aime pas le juge de la Cour suprême, dégage. Là, au Brésil, je pense que ça a été très dangereux de censurer X. Puis, j'approuve pas les méthodes de Lula. Mais quand même, Musk, quand même, qui au Brésil, rappelons-le, a ciblé directement un juge de la Cour suprême là, en faisant des mimes sur lui, c'était rendu Voldemort. C'est quand même très spécial comme méthode de communication. Donc, moi, je pense que Musk va un peu loin. Il est allé en Allemagne aussi prendre parti pour un parti dit d'extrême droite. Mais c'est ça, l'islamisme, je pense, va revenir au centre plus du débat en 2025. L'islamisme, mais aussi le multiculturalisme, notamment sous l'action d'Elon Musk, qui semble vraiment déterminé à remettre en question l'immigration massive en Europe. Donc, Musk, évidemment, a tellement de visibilité. C'est l'homme le plus riche sur Terre. Quand quelqu'un qui a cette influence-là décide qu'il veut faire le ménage d'une certaine façon, on peut s'attendre à ce qu'on en discute dans les médias.
Jérôme Blanchet-Gravel, c'est toujours un plaisir.
Bonne année 2025 à tous vos auditeurs.
Apparemment, de la santé. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à un homme comme toi, là, qui a à peu près tout ce qu'il désire?
Triper sur les danseurs à Paris, même quand elles sont déguisées en anges. Donc, aimer les festivités.
Ouais. Bon, je préfère le reggaeton latino-américain.
Ouais. Salut, Jérôme.
Je regarde le reggaeton, non, vous le savez.
Hein. Oui, oui. On te suit sur Libre Média, mon ami.
On a hâte de te voir danser.
OK, à bientôt. Bye.
Bye.
Bye. Nous, on s'arrête pendant quelques secondes. On vous pousse du Blink-182 avec The Rock Show sur les ondes de boulevard. D'ici là, vous avez des choses à nous dire, c'est le 88 971 1021.